Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
8h en ce dimanche, Agnès Bonfillon qui vous dit tout, qui vous informe. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Avec l'ouverture des bureaux de vote en ce moment même partout dans le pays.
Deux scrutins aujourd'hui, deux enveloppes à glisser dans les urnes, élections régionales et départementales. Bonjour Esteban Pinel.
Bonjour à tous.
Vous êtes à Caen pour RTL, Esteban, devant le bureau de vote de l'hôtel de ville, avec évidemment des conditions sanitaires très strictes.
Oui, et si l'on se mettait dans la peau d'un électeur, justement, on gravit les marches pour entrer dans la mairie. Gel dès l'entrée, masque sur le nez, bien sûr. Si on l'a oublié, le personnel nous en donne un. On avance jusqu'au bureau de vote, salle du chapitre, dans cette abbaye aux hommes, où l'on vient de proclamer l'ouverture du scrutin. C'est Patrick Nicole, le président du bureau, qui s'en est chargé. Il est avec nous. Patrick Nicole, bonjour.
Bonjour.
Alors, une vingtaine d'assesseurs sur le pont, tous vaccinés.
Tous vaccinés, c'est obligatoire. Nouveau protocole cette année, évidemment, dans des conditions particulières.
Alors, les électeurs vont découvrir un bureau un petit peu réaménagé. Qu'est-ce qui a changé pour respecter ce fameux protocole ?
Eh bien, dans ce bureau, habituellement, nous avons une table avec, pour une élection. Là, nous avons double table avec double bureau, avec tout ce qu'il faut pour les départementales d'une part et pour les régionales ensuite.
Et on a vu, par exemple, ce stock immense de stylos rouges à usage unique.
Tout à fait. Et il s'agit en fait de ne pas réutiliser un stylo qui a déjà été utilisé par une personne qui est passée juste avant. Sachant qu'il y a aussi du gel hydroalcoolique et tout ce qu'il faut dans le bureau avec désinfection des tables plusieurs fois dans la journée.
Et sérénisé comme maître mot, tout le monde a été bien mis
tout
au
courant. Tout le monde est briefé, tout le monde est à l'heure, tout va bien et en plus il y a du soleil ce matin.
Bon, voilà, vous l'aurez compris, on n'attend plus que les électeurs dans ce bureau. 114 bureaux sur 24 sites à Caen. C'est parti depuis une minute.
Merci beaucoup Esteban Pinel en direct de Caen pour RTL. Alors traditionnellement, justement, on en parlait des électeurs. Ces élections départementales et régionales ne déplacent pas les foules. Ça risque encore d'être moins que d'habitude en pleine période de pandémie. Ce qui est certain, William Galibert, c'est que la participation sera l'un des enjeux majeurs.
Oui, en fait, la vraie question, c'est de savoir si les chiffres de participation seront mauvais ou bien très mauvais. L'abstention massive est déjà annoncée par tous les instituts de sondage. Et cette abstention, à vrai dire, elle est déjà acceptée par les politiques eux-mêmes, comme si elle était devenue inéluctable, scrutin après scrutin. Le phénomène risque cette fois de s'accentuer. Beaucoup de candidats déplorent une campagne au rabais, repoussée, perturbée par le virus, peu ou pas de meeting, peu ou pas de porte-à-porte. Et des Français qui se sentent assez peu concernés. Beaucoup ne connaissent même pas le nom de leur président de région. Alors les partis tentent tout de même de mobiliser leurs troupes avec des appels au vote relayés sur les réseaux sociaux, avec même des plateformes mises en place par plusieurs candidats pour faciliter les procurations. Avec quel résultat ? Probablement pire qu'en 2015, où il n'y avait eu que 49% de participation au premier tour. Et le chiffre était même tombé à 46% en 2010.
William Galibert, dès la fermeture des premiers bureaux de vote à 18h, émission spéciale sur RTL avec Vincent Parisot. À 19h, Thomas Soto prendra le relais pour vous faire vivre cette soirée électorale jusqu'à 23h.
Et Agnès, ce matin, le bureau de vote de Saint-Nicolas de Bourgueil a dû être déplacé.
Et oui, la commune d'Indre-et-Loire a été très touchée par les intempéries. Hier, gros dégâts matériels à cause d'une mini-tornade. Le toit de la salle des fêtes n'a pas résisté. Le clocher de l'église, lui, s'est littéralement effondré dans la nef. Une vision apocalyptique, selon le curé de la paroisse, Benoît Laurence.
Ce clocher en pierre de tuf, bon, il est vraiment parti en vrille, quoi. C'est impressionnant. On voit donc la voûte éventrée complètement, tous les gravats sur les sièges qui a fait plier même les grilles en ferraille. Tout est éclaté, il y a des morceaux de bois qui sont partis partout. On aurait cru qu'il y a eu une bombe à l'intérieur, quoi. Vraiment, c'est impressionnant.
C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés.
Oui, il y avait une dame qui devait aller mettre des fleurs dans l'église pour la messe de ce soir, parce qu'en plus sur les 11 clochers, c'était le tour de ce clocher d'avoir la messe et elle devait aller fleurir cette église et cette dame finalement, se trouvant pas bien, dit « j'irai plus tard » et heureusement.
Des propos recueillis par Christian Panvert. Hier, l'épisode orageux a concerné de nombreux départements. Grêle, pluie intense, violente rafale. Heureusement, Pas de blessés, mais des dégâts matériels et des avaries. 15 000 foyers sont privés d'électricité ce matin, notamment dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes. Sachez que les lignes du RER E et P qui desservent le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne sont interrompues jusqu'à la mi-journée en raison là aussi d'une panne d'alimentation.
Et Agnès, à partir d'aujourd'hui, plus besoin d'attestation.
Terminé la case à cocher pour motif impérieux entre 23h et 6h du matin. Plus de couvre-feu grâce à un nombre de malades du Covid qui continue à diminuer. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Le Brésil, par exemple, vient de franchir le seuil des 500 000 morts. La situation sanitaire fait du pays un vrai paria sur la scène internationale. Par exemple, depuis le mois d'avril, la France ne délivre plus aucun visa aux étudiants brésiliens, Sarah Cozzolino.
Avant la rentrée de septembre, Leandro Souza aura reçu ses deux doses d'AstraZeneca. Mais pour la France, peu importe son immunisation, il n'aura pas de visa étudiant.
Et ça m'angoisse parce que j'ai vraiment la sensation que je peux perdre cette opportunité très relevante pour mon parcours professionnel et personnel. Ça nous fait mal parce que nous ne savons même pas la façon dont on doit organiser nos vies dans les mois suivants.
En ce moment, Leandro devrait commencer les démarches au Brésil pour rendre son appartement, quitter son job et réunir les documents pour la demande de visa. Mais il n'a aucune garantie que l'université Clermont-Auvergne, où il a été accepté en Master 2, gardera sa place.
Nous avons l'impression d'être laissés sans perspective en attendant une possible amélioration de la situation sanitaire au Brésil.
Comme Leandro, quelques 350 autres étudiants et chercheurs sont concernés. Ils ont adressé une lettre au gouvernement français pour revendiquer leur droit d'étudier comme étant un motif impérieux.
Sarah Cozzolino, Brésil pour RTL. Et toujours concernant l'épidémie de Covid, tester, tracer et isoler, le dispositif va continuer à évoluer cet été en France. Ce matin, dans le journal du dimanche, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce des autotests distribués gratuitement sur les plages, des médiateurs anti-Covid qui seront présents sur les lieux de vacances et puis des mesures d'isolement encore un peu plus dures face au variant Delta.
Bon réveil à vous tous, il est 8h07, dans un instant la suite du journal d'Agnès Bonfillon avec Redon et de nouvelles interventions des forces de l'ordre en Ille-et-Vilaine hier soir pour mettre fin à une rave partie. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon, la suite du journal. Le calme est revenu à Redon, en Ille-et-Vilaine.
Après de violents affrontements dans la nuit de vendredi à samedi, la rave party en hommage à Steve Canisso avait été maintenue par les organisateurs. Une nouvelle intervention des forces de l'ordre a donc eu lieu en début de soirée pour tout stopper, Mathieu Lopineau.
Oui, en 45 minutes, hier soir, les gendarmes mobiles ont évacué à coups de gaz lacrymo ce champ où un millier de teufeurs dansaient, faisaient la fête illégalement. Les forces de l'ordre ont détruit les cinq systèmes à la masse pour éviter que la fête recommence. Il y a eu plusieurs blessés. Emmanuel Berthier, le préfet d'Ille-et-Vilaine, se félicite du déroulement des opérations.
La préparation exemplaire de l'opération a permis qu'elle se déroule dans d'excellentes conditions de sécurité. Elle s'est déroulée sans anicroche.
La veille, 400 gendarmes mobiles étaient déjà intervenus. 7 heures d'affrontement, des centaines de grenades de désencerclement et de gaz lacrymo lancés. Les teufeurs, eux, ont jeté des pierres et divers projectiles. Plusieurs blessés de chaque côté, dont ce jeune rennais de 22 ans qui a eu la main droite arrachée alors qu'il voulait ramasser une grenade. Une enquête est ouverte. Alors pour Maël, un ami de Steve décédé donc à Nantes lors de la fête de la musique il y a 2 ans, ce recours à la force est disproportionné.
Ouais, 22 ans, ça y est, tu vas juste faire la fête et tu repars, t'as plus de main. Ça m'a rappelé Nantes, Kay Wilson. Ouais, c'est sûr que la quantité de lacrymo qu'ils ont jeté, quand tu vois que c'est des jeunes qui sont bloqués dans un champ, il n'y a aucune sortie, c'est violent quand même.
Et ce matin, le site de Redon est entièrement évacué.
Le reportage de Mathieu Lopineau pour RTL. À Paris, un appel à témoins est lancé pour retrouver les deux personnes qui ont mortellement percuté en trottinette électrique une jeune femme. Lundi dernier, la victime âgée de 31 ans se déplaçait à pied au moment de la collision.
L'Euro sur RTL.
Et Agnès, pour la qualification directe en huitième de finale, on repassera.
Ah, qu'il a été compliqué ce match pour nos Bleus face à la Hongrie hier. Les Français ont été tenus en échec et ont dû se contenter d'un match nul, un partout. La chaleur étouffante, un stade plein à craquer et hostile. L'après-midi fut compliqué à Budapest, d'où la frustration et la déception des supporters français qui avaient fait le déplacement. Julien Fautra, des supporters qui n'ont voulu retenir que le positif.
Oui, ils ont hurlé dans le stade, côté français, côté hongrois.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça.
Puis soigner leurs cordes vocales ensemble dans les bars de Budapest toute la nuit durant.
Je suis un peu déçu du jeu de l'équipe. Après, je mets ça de côté, puis je trouve que c'est un stade plein, l'ambiance était magnifique.
Au vu du match, c'est logique, hein. On est déçu, forcément on est déçu. En fait, c'est bien que ça arrive maintenant.
Avant les matchs et l'émission directe, voilà, on s'est pris une petite gare derrière la tête. Pour gagner l'Euro, il faut être un bon champion du monde, ok. Tout ça.
C'était un super match de la Hongrie, un très beau match. Merci d'être venu, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite le meilleur pour la suite.
Mais évidemment, évidemment qu'on apprécie Budapest, on apprécie la Hongrie, on a été très bien accueillis. Peu importe qui gagnait aujourd'hui, on a tous fait la fête.
Sentiment partagé par une grande majorité des personnes que j'ai rencontrées, de la déception, mais des émotions.
Ils avaient une énergie dans le stade, autant que les joueurs en fait, l'énergie elle était commune. Qui a fait qu'ils ont réussi à pas perdre ce match.
Le véritable 13e homme en fait là.
13 voire 14.
Beaucoup vont rester 4 jours à Budapest avant le match de mercredi, ici contre le Portugal.
Le reportage de Julien Fautra à Budapest pour RTL. Prochain match effectivement, ce sera à 21h hein, mercredi France-Portugal. Le Portugal qui a pris une sacrée douche froide face à l'Allemagne hier, défaite 4-2. En rugby, sacrée retrouvaille entre les deux finalistes de la Coupe d'Europe. Vendredi prochain, La Rochelle et Toulouse s'affronteront en finale du top 14 cette fois, puisque Toulouse l'a emporté hier face à Bordeaux-Bègles 24-21. Du foot, du rugby, mais aussi de la F1 dans l'actualité sportive, départ du Grand Prix de France cet après-midi à partir de 15h avec Verstappen en pole position devant Hamilton. Pierre Gasly, lui, partira sur la troisième ligne. Je ne savais pas que c'était impossible à cause de ma différence, alors je le fais. Voilà ce qu'avait l'habitude de dire Philou Sport, atteint d'une myopathie depuis l'enfance. Ça ne l'avait pas empêché de devenir l'un des commentateurs sportifs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Plus dommage, après son décès hier à l'âge de 49 ans, a commencé par un message de Kylian Mbappé qui parle d'un amoureux du foot et de la vie.
Oui, il y a beaucoup de messages, c'est vrai, sur les réseaux sociaux pour saluer ce vrai personnage. Merci beaucoup Agnès Bonfillon. Le foot, l'Euro, c'est sur RTL. Dans une demi-heure, Robert Pires sera en direct avec nous, notre consultant M6 RTL. Son regard, avec un peu de recul sur le faux pas d'hier, le faux pas des Bleus. Deux matchs ce dimanche, 18h, l'Italie déjà qualifiée pour les huitièmes face au Pays de Galles. 18h également, la Suisse face à la Turquie.